Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, un patrimoine radiophonique.
D'où viennent, peut-être, les idées de mise en scène chez un réalisateur ? De l'enfance, de la tradition familiale, de l'époque tout simplement, du pays qui vous a vu naître ? En 1993, Fernando Solanas s'entretenait avec Robert Grolier dans une série d'entretiens à voix nue. Les grands changements de l'époque, les moments culturels en Argentine, le théâtre, la bande dessinée, la publicité. Un cinéaste de combat, primé à Cannes, à Berlin, à Venise, à La Havane, député puis sénateur jusqu'à sa mort en novembre 2020. Mais, pour l'heure, nous ne sommes qu'en 1993. Voici les trois premiers volets de cette série, diffusée pour la première fois sur France Culture les 18, 19 et 20 octobre 1993. Donc, avant le cinéma, avant la création, avant la musique, avant la littérature, avant le tango, l'histoire de l'Argentine.
À voix nue. Aujourd'hui, Fernando Solanas s'entretient avec Robert Grolier. Premier entretien.
En 1969, L'heure des brasiers est présentée au Festival de Cannes. Et pour les spectateurs d'après 68, c'est le choc. On venait de découvrir un grand cinéaste, Fernando Solanas. Un Argentin qui parlait de la révolution à faire, mais qui en même temps révolutionnait le langage du cinéma. Un Argentin qui se servait du cinéma pour changer le monde et le langage en prônant la libération sous toutes ses formes. En 1972, Solanas prépare Les Fils de Fierro. Mais le coup d'état des militaires l'empêche de le terminer. Et le film ne sera achevé qu'en 1978, en France, où il s'exile. Là, il réalisera Le regard des autres, un film sur les handicapés. Puis après la fin du régime militaire, Solanas retourne en Argentine pour tourner Tango, l'exil de Gardel. Un lien entre la France et l'Argentine. Et dans ce même pays, le Sud, une vision originale sur la répression militaire. Et c'est aujourd'hui Le Voyage, présenté au Festival de Cannes en 1992. Une fresque sur l'Amérique du Sud dont le point de départ remonte à 1492. Nous sommes allés à la rencontre d'un cinéaste politique. Or, Solanas est de moins en moins un cinéaste. Aujourd'hui, il est un politique qui abandonne le cinéma pour se consacrer à la défense du peuple argentin. Fernando Solanas, vous êtes né en 1936. Quelle fut votre enfance ?
Bon... J'ai eu une enfance comme beaucoup de garçons de cette époque-là, fin des années 30, les années 40. Je nais dans une famille bourgeoise. Mon père était un médecin. On habitait dans la grande banlieue de Buenos Aires, à Olivos, un quartier résidentiel plein de vieilles maisons, maisons qui venaient de l'époque de la colonie. Enfin, il était une enfance pleine de jeux, j'ai une énorme tendresse pour ce moment de ma vie. Mais il s'est produit l'unique moment dramatique que j'ai souvenir, c'est la mort de mon frère. On était 5, 3 garçons, 2 filles. J'étais le troisième garçon. Mais il mort le deuxième de mes frères. Bonne chance, ma vie, dans ce moment, à partir de ce moment. C'est un moment dramatique dans ma famille. Mon père, médecin, et son fils, qui meurt d'une épidémie de typhus, l'année 42. Il s'est produit un changement dans ma vie. Je commence à occuper la place de mon frère mort. Et peut-être à partir de ça, j'ai commencé à développer un sort de concurrence pour le rapport avec mon frère aîné, on avait 5 ans de différence entre nous deux.
Et votre mère, vous n'en parlez pas ?
Oui, ma mère, je me souviens, oui, ma mère était la maison. Mon père passait pratiquement toute la journée dehors et ma mère était occupée toute la place. Une femme d'une énorme tendresse, absolument dédiée à ses enfants, à la limite qu'elle avait été toujours l'avocat de tous ses enfants, en face de mon père, qu'il était plus rigide. Alors, ma mère faisait toujours le contrepoint en face, en la défense de ses enfants, en face de mon père. Mais c'était une famille bien unie. Mes parents en étaient unis toujours. Il avait des bagarres, comme dans toutes les familles. Mais une famille catholique traditionnelle. Alors, l'unité de la famille, d'abord l'unité de la famille. Mais j'ai un grand tendresse pour ces moments, les promenades avec ma mère, les jeux. Ma mère était une espèce de fille aussi. Incroyable la capacité de jeu de ma mère et de compréhension.
Comment c'était l'Argentine à cette époque-là ? Est-ce que vous avez des souvenirs de votre enfance, de l'environnement ? Étant donné qu'en Europe, nous étions en guerre, et l'Argentine n'était pas en guerre officiellement.
Oui, je me souviens de cette époque, mais on habitait, comme j'ai dit, dans la Vallier. Enfin, j'étais très petite. On avait l'écho de la guerre, la radio qui parlait de tout ça. Mais on était un petit peu isolés, surtout, enfin, j'étais trop petit. Mon père faisait des commentaires de la guerre. Mon père, il avait les hobbies de les bateaux de guerre. Il avait une belle collection de petits bateaux de guerre. Il connaissait tout. Il connaissait toutes les batailles. Il connaissait toutes les batailles de la guerre del 14-18. Non, je me souviens. Quand mon père racontait la bataille de l'écoulement del Bismarck, le grand cuirassé allemand qui était coulé dans la mer du Nord. Enfin.
Il mettait en scène ces bagarres ?
Non. Mais.
Non, parce qu'on pourrait penser que c'est de là que vous est venue l'idée, en quelque sorte, d'une mise en scène par la suite.
Non. C'est en plus ce sujet de c'est affection de mon père, peut-être pour les bateaux de guerre, venait de mon grand-père. Mon grand-père, il était docteur en chimie et biologie, mais à la marine de guerre. Alors, lui s'est licencié comme contre-almirant. Alors, venait de la tradition familière en certain approchement à la marine. Et mon père avait rêvé pour rentrer à la marine de guerre. Alors, il avait une tradition un petit peu rigide dans les rapports avec les enfants. Mais enfin, j'ai un grand souvenir de mon père. D'un côté, nous a laissé une espèce de... Enfin, l'héritage de la volonté, l'honnêteté, la volonté, la fermeté. On appartenait à la bourgeoisie, mais en bourgeoisie économiquement moyen. Ça veut dire, mon père vivait de son profession, il faisait de la clinique dans la Vallier. On a eu une existence moyenne. Voilà. Mais évidemment, le temps qui venait, on était de temps de grands changements, de rapports, de grands changements culturels. Alors, faisait que mon père, il n'avait pas la compréhension exacte de l'état, de les nouveaux moments culturels. Et moi, j'ai étudié toujours dans l'école publique. Alors, j'étais en contact avec tout type d'enfants, de tout type d'extraction sociale. Ça veut dire que je m'avais démocratisé beaucoup. Et j'étais perméable, sensible à... Enfin, les changements de l'époque. Pensez-vous qu'à partir des années 45, 46, 47, il y a des changements énormes à l'Argentine aussi. La faim commence à occuper une place dans la société, aussi dans la politique. Ce sont des changements très, très forts dans une société, on peut dire, conservatrice. Très conservatrice. Traditionnelle, conservatrice. Si, les souvenirs que j'ai de cette époque-là, c'est d'une société plutôt dure, aristocratique et insensible. Insensible et très égoïste, très égoïste. Je me souviens qu'on habitait une énorme maison, avec un énorme jardin. Il avait à la maison vivaient les jardiniers et vivaient deux ou trois personnes qui faisaient le ménage. C'était une époque, comme maintenant dans certains pays de l'Amérique du Sud, où il était normal que dans une famille bourgeoise d'un professionnel travaillait et vivait dans la maison deux ou trois personnes qui travaillaient dans la maison. Dans les grandes familles, le personnel était de 5, 8, 10, 12, 15. Qui était comme ça. À partir de 45, 46, change tout dans le pays. Et c'est la période où la bourgeoisie ou les classes dominantes en Argentine commencent à perdre certains bénéfices parce qu'il y a un processus de démocratisation sociale très, très fort. Très, très fort. Bon, voilà.
C'est l'arrivée de Perón qui va tout changer?
Oui. C'est l'arrivée de Perón comme expression de... Je pense qu'il faut expliquer l'histoire pas seulement pour l'arrivée des hommes. Il avait une énorme nécessité dans tous ces pays, dans la majorité de la population, de changements socioculturels et politiques profondes s'expriment de cette façon-là. Ça veut dire la force de l'histoire, c'est les masses, le peuple, et aussi les hommes, la coïncidence entre les hommes, l'histoire et les gens se produit dans des moments politiques où l'histoire peut aboutir.
Est-ce que c'était un pays riche? Parce qu'on a l'impression qu'à l'époque, l'Argentine s'était enrichie pendant la guerre, qu'elle avait, dans le fond, profité de son isolement pour s'enrichir.
Bon, non, je...
Par rapport aux autres pays d'Amérique.
Non, l'Argentine, dans les années 20, c'est le cinquième pays exportateur du monde, dans les années 20. Il était la usine de nourriture, une énorme usine de nourriture, l'exportation de blé et de viande. L'Angleterre, l'Europe... À partir des années 40, non. Qu'est-ce qui se passe à l'Argentine? Non, aujourd'hui, encore aujourd'hui, il existe l'écho. Ah, le disait toujours mon père. Mon père faisait la protestation. On est très mal maintenant. On a perdu la richesse. L'Argentine, il n'est pas comme avant. Dans les années 40, la guerre produit force la industrialisation de l'Argentine. L'Argentine était un pays de structure plutôt agricole, l'industrie était trop petite. Avec la guerre, l'Argentine ne peut pas, il n'arrive pas au pays de produits d'importation classique, parce qu'il avait les blocs, enfin, venait de l'Europe, enfin, tout ça. Et alors, cette situation de dépendance internationale avec la guerre oblige l'Argentine à chercher à pleine vitesse sa propre industrialisation. Et pour la première fois, il commence un processus de capitalisation antérieure. Valorisation de l'industrie nationale, protectionnisme, capitalisation. développement d'un énorme marché intérieur. Ça veut dire les 70% de la population qui ne partageait pas les progrès, et les progrès matériels, elle commence à avoir accès à un niveau de vie supérieur. C'est fini avec l'analphabétisme. Se construit plus d'écoles que dans toute l'histoire du pays. Comprenez bien. À partir de 1946, se construit plus d'écoles dans le pays qu'en 140 années d'histoire. Alors c'est un moment important. Et arrivent tous les droits du travailleur. Les vacances, la journée de travail de 8h, 8h30, demi-journée le samedi, le 13e salaire à la fin d'année, la retraite, les syndicats sont légaux, les droits de grève, il est dans la Constitution. Enfin, un moment de progrès intéressant, important. Et de tout ça, évidemment, change les habitudes et change beaucoup de choses. Et s'est produit un énorme mouvement intérieur dans le pays. Un énorme mouvement. C'est l'accès de la majorité du pays à la culture. Je me souviens que mon père protestait parce qu'il passait. On passait les vacances dans la grande ville. La grande ville de vacances était Mar del Plata, 400 kilomètres au sud de Buenos Aires. Des plages formidables, la côte froide, l'océan Atlantique, mais très bon. Mais évidemment, à partir de 1946, le peuple et les gens de l'intérieur pouvaient venir s'approcher à la mer. Et toutes ces villes et tous ces lieux de vacances, de distractions sont occupés pour des gens qui jamais avaient arrivé. Alors mon père protestait, parce qu'il ne trouvait pas la place, les restaurants toujours pleins, les hôtels pleins, des gens il protestait parce qu'il trouvait que insupportables ces gens grossiers qui venaient occuper les lieux. Enfin.
1946, c'était 1936 pour nous, en France. C'est-à-dire, c'était les mêmes changements qui se sont produits 10 ans après. Mais une question, c'est que ces changements, on les doit à qui et comment?
Après 15 ans de dictatures et de gouvernements frauduleux, vous savez que le premier coup d'État dans l'Argentine contemporaine de ce siècle s'est produit en 1930, septembre, le coup d'État contre le président Irigoyen, un grand président qui avait été réélu. Bon, c'est le premier coup militaire. Et après, toutes les années 30 sont des années sans élections, sont des élections frauduleuses avec des proscriptions du parti radical. Sont les conservateurs. Et finalement, les premières élections libres où participent tous les partis politiques se produisent en 1946. En 1943, vient un coup d'État de type nationaliste. Il faut penser de quel point de vue on voyait l'histoire. On était à l'Argentine. L'Argentine était pratiquement une sorte de néocolonie anglaise. Tout était dominé par les Anglais. Les ouvriers, par exemple, les ouvriers de les grandes usines de viande, les frigorifiques pour l'exportation de viande à l'étranger, étaient tous Anglais. On faisait des grèves, et les Anglais étaient tellement durs, très durs, très durs. Il y avait des répressions, des assassinats. Les grèves étaient illégales. Il faut comprendre qu'est-ce qu'ont fait aussi les Anglais à l'Argentine. Par exemple, le nord, je vois les maps de l'Argentine là. Il y a une énorme région qui s'appelle le Chaco. Ce sont des forêts, on était des forêts subtropicales, où il existait des milliers, des milliers, des milliers de forêts de quebracho. Le quebracho, c'est un arbre de bois très dur, très, très dur. Et les Anglais faisaient avec le quebracho les tanins. Hein? Bon, ce sont des arbres millénaires. L'arbre millénaire, avoir un quebracho avec un moyen porteur, il faut avoir, je ne sais pas, 60, 70, 80 ans. Bon, on coupait toutes les forêts du Chaco. Mais il n'y a pas un arbre qu'on laissait pour le remplacer. Une fois qu'on coupait tout, la forestale s'appelait, une chaîne du zinc qui s'appelait la forestale, une fois qu'on était coupé tout, des centaines de kilomètres de forêt en partie. Bon, les Anglais légalisaient la... une occupation néocoloniale du pays. Tous ces 15 ans d'illégalité dans les pays, de fraude, de gouvernements conservateurs, etc. La Banque nationale était dominée par les Anglais, par exemple. À les Anglais appartenaient les chemins de fer, les gaz, les téléphones, les assurances, les principales banques. Alors la réaction de les années 40, c'est une réaction nationaliste. Nationaliste, pas dans le sens chauviniste, comme on voit en Europe, par exemple. Ce n'est pas le nationalisme naziste, ni le nationalisme contre les immigrés et tout ce type de choses qu'on voit ici. Vous pensez que nous venons d'un pays qui s'est constitué pour successifs vagues de migrations. La constitution de l'Argentine, c'est une constitution plus ouverte, impossible. Plus ouverte, impossible. L'Argentine, c'est évidemment l'homme natif qui l'a suivi un génocide atroce, atroce. Et après, les Espagnols, les Italiens, mais aussi... Il y a des Saxons, il y a des Français, il y a des Juifs, il y a des Arabes, il y a des Chinois. C'est un pays très cosmopolite. Et dans les années 40, après la guerre, vient des milliers, des milliers, des milliers de... Dans les années 30, après la guerre civile d'Espagne, ont venu beaucoup, beaucoup d'Espagnols. L'Argentine avait été... la terre naturelle d'exil des Espagnols persécutés par le franquisme. Et après la guerre, ont venu des Italiens, de tout, milliers de milliers de milliers de personnes. Bon, un pays ouvert, mais qu'il y a une réaction de défendre, de récupération de la nation. Voilà, de récupération du pouvoir de décision d'une nation pour réaliser un peuple. L'ensemble d'un peuple qu'il y a des aspirations de progrès, des aspirations de justice sociale, des aspirations de démocratie, démocratie vraie. Ici, il existe l'image que Perón arrivait au pouvoir à l'Argentine à travers d'un coup d'État. La désinformation, c'est extraordinaire. Il n'existe rien qu'à l'Argentine peut soutenir un truc comme ça. Parce que les élections de l'année 46 sont des élections qui, dans l'histoire de l'Argentine de ce siècle, sont des axes de démocratie participative plus grands du pays. Perón se présente à les élections à travers du Parti Laboriste, qui après va devenir Parti Peroniste. Mais c'est un ensemble de gens qui viennent des couches populaires du radicalisme et de la gauche. Anarquistas, socialistas, sindicalistas. De l'autre côté, il y a les conservateurs, l'aile droite du Parti radical et aussi le Parti communiste officiel.
Ça voudrait dire que les communistes étaient les alliés de la droite des conservateurs?
Ah oui, oui, ça c'est...
Et comment peut-on l'expliquer? Aujourd'hui, bon, en 1993.
Et bueno, il faut penser quelle était la politique de Staline. Dans ce moment, l'Argentine, c'est fini la guerre. L'Argentine, c'est le premier pays du monde où parle de troisième position.
Troisième position, c'est-à-dire
international, si.
Le tiers monde.
Ah oui, 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 oui. C'est Perón, le premier dirigeant d'un pays du tiers monde qui commence à parler du tiers monde avant Nasser, avant tout ça. Alors, Perón dit, les ennemis traditionnels de l'Argentine, l'Angleterre. Bon, c'est Perón qui va nationaliser les chemins de fer, les téléphones, les gaz, avec la constitution de l'année 49. L'unique fois qu'on a convoqué à une assemblée constituante pour la réforme de la constitution, on a sorti la constitution plus démocratique et avancée d'Amérique du Sud, avec des droits sociaux à l'intérieur de la constitution. Droit de travailler, droit de l'habitation, droit del travail, droit à l'éducation, droit à la vieillesse. Ça veut dire, tout ça, c'est énormément avancé. C'est la première fois que dans une constitution se reconnaît les droits de la femme à la voix et à occuper n'importe quel lieu dans le gouvernement. C'est le premier pays de l'Amérique du Sud que la femme conquête les droits à voter. Alors c'est très important. Et aussi, dans cette constitution, il existe un article, l'article numéro 40, qui dit que tous les minéraux et les réserves d'hydrocarbures du pays et toute la richesse naturelle du pays appartiennent à la nation. Et c'est impossible de les vendre dans n'importe quelle forme. C'est interdit. Bon, il est tout ça dans cette constitution. Bon, dans cette constitution de l'année 49, c'est la femme, elle conquiert les droits au vote. Et elle peut occuper n'importe quel lieu public, être élue. Enfin, c'est un moment très, très important. C'est un moment de conscience sociale et politique très important dans le pays, malgré les difficultés, malgré beaucoup, beaucoup de problèmes pour la réalisation pleine de la démocratie qu'aujourd'hui nous voudrons.
À voix nue. Fernando Solanas s'entretenait avec Robert Grelier. Réalisation Nicole Salerne.
Ce premier volet de la série d'À voix nue a été diffusé pour la première fois sur France Culture le 18 octobre 1993. Tout de suite, le deuxième rendez-vous avec le metteur en scène argentin Fernando Solanas. Première diffusion, le 19 octobre 1993.
À voix nue.
Aujourd'hui, Fernando Solanas s'entretient avec Robert Grelier. Deuxième entretien.
Fernando Solanas, nous voudrions revenir avec vous avec votre formation, parce que je crois savoir que l'amour du cinéma n'est pas venu tout de suite.
Non, c'est évident. Mais j'avais un amour grand pour le cinéma en tant que spectateur. Je me souviens que j'avais 8 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, et il n'existait aucune autre fête plus grande que avoir la permission et un sou pour aller au cinéma. C'était l'époque où on voyait, début de les années 40, on voyait films de guerre, films américains, séries américaines qu'on voyait, qui passaient tous les jours en chapitres différents. Tom Mix, de western, de trucs comme ça. C'était formidable, c'était une fête aller au cinéma. Et j'ai gardé toujours cet énorme amour pour le cinéma, de plus en plus la conscience que le cinéma était une sorte de vertice, axe de plusieurs langages. Évidemment que j'étais attiré aussi pour la littérature, l'affection à la lecture, le théâtre. Je lisais beaucoup de théâtre, tous les classiques, Shakespeare, Molière. Mais la musique était le troisième amour. Peut-être toute l'adolescence, il est bien marqué par la musique. J'avais une énorme émotion pour la musique. J'avais commencé à étudier le piano quand j'avais 11, 12 ans. Mon père m'avait acheté un petit piano anglais, un petit piano anglais. Et j'avais commencé, mais c'est tout. Après, quand j'ai fini les bacs, c'était un moment pénible dans ma vie. Ce moment, la crise de l'adolescence, la crise de l'identité. Déjà, un an avant la finition du bac, j'avais cette énorme angoisse. Je ne savais pas quoi faire. Je ne savais pas quel était mon chemin. Parce que j'aimais beaucoup de choses. Je ne pouvais renoncer à rien. J'avais une énorme affection pour la littérature, aussi pour la philosophie. En même temps, mon père et la famille attendaient de moi un médecin. Mon frère aîné avait commencé la carrière, mais l'avait quitté depuis un ou deux ans de tout pour commencer des études de lettres. Mon père, il était étonné, parce qu'un poète, dans la maison, pas inacceptable, mais il ne voyait pas comment mon frère pouvait se gagner la vie. La préoccupation d'avoir l'idée toujours classique de il faut une formation, mais surtout il faut avoir un titre universitaire pour être quelqu'un, mais aussi pour pouvoir se gagner la vie. Idée traditionnelle. Bon. Mais j'aimais beaucoup de choses. J'avais aussi le rêve de la musique. Dans ces moments-là, peut-être était la musique la chose plus importante de ma vie. Et je l'ai dit à mon père. Je me souviens que les jours que je devais le dire à mon père que je voulais étudier la musique, que je ne voulais pas suivre la carrière de médecin. C'était un jour terrible, un jour terrible. Et finalement, bon, lui m'a répondu qu'il ne voulait pas savoir plus. A été à moi la décision, il ne pouvait pas m'imposer rien, mais il ne voulait pas maintenir un deuxième vago, ça veut dire vagabond. Quelqu'un qui fait de la bohème, était l'idée pour mon père. Ça. Dans le fond, lui était orgueilleux d'avoir des enfants avec des inquiétudes. Mais était une chose absolument étrange pour lui. Mais qu'il respectait, en même temps, lui avait peur de nous laisser en faiblesse pour affronter la vie. Voilà. Général. Bon, j'ai commencé à étudier, j'avais 17 ans, j'avais fait un bon bac, et j'étais plein d'efforts, plein d'énergie, plein de rêves, plein d'émotions. Mais c'était très dur pour moi aussi choisir la musique, parce que un jour je sentais que c'était la littérature ou le théâtre, et l'autre jour j'avais affection pour la philosophie ou pour le psychoanalyse. Très bizarre. Aussi j'avais aimé beaucoup l'architecture. Alors, finalement, c'est la musique. Et je commence à étudier toute la journée la musique, le piano. Je suis des études de composition musicale. Et je commence à me gagner, quelques mois plus tard, à me gagner la vie comme professeur de piano. J'étudiais dans cette époque-là avec un grand professeur qui me passait des élèves, des petits élèves. Bon, voilà.
C'est sans doute cette raison que l'on retrouve de la musique dans tous vos films. Cet amour vient de...
Oui, un énorme amour pour la musique. J'avais plongé dans la musique, j'ai passé pratiquement 3-4 fois par la semaine, j'étais au concert. Buenos Aires, à ce moment-là, était une ville d'une activité musicale extraordinaire. Il faut penser qu'à cette époque-là, fonctionnaient 5 orchestres symphoniques dans la ville. Une ville de pratiquement 5 millions d'habitants. Le théâtre Colón, c'est un théâtre lyrique d'une énorme importance. venaient des gens comme Carbone, Kleiber, Furtwängler, d'énormes maîtres d'orchestre. Je me souviens la première représentation de Wozzeck d'Alban Berg, qui était extraordinaire, avec Christian Geltz. Non, formidable, des pianistes, de Menuhin, Frédéric Gulda, Gieseckin, Bathaus, Wilhelm Kempf. Énorme, l'activité musicale de l'Argentine. Dans cette époque-là, j'avais commencé aussi à exercer la critique musicale. Ça veut dire, je l'avais pris avec tout mon cœur et toute ma passion. Mais il avait autre amour qui commençait à gagner la place, qui était le cinéma.
Mais avant d'aborder le cinéma, je voudrais quand même que l'on poursuive sur la musique, parce que cette musique a une importance telle que c'est même le titre de certains de vos films, notamment avec le tango. Pourquoi le tango? Parce que le tango est une musique populaire, donc elle ne devait pas être dans ce que vous étudiez à l'époque.
Oui, c'est vrai. Mais dans cette époque-là, déjà... Non, d'abord le tango. Le tango, c'est la chanson populaire de la ville de Buenos Aires, Saint Mélange. C'est une musique populaire qu'il avait née à la fin du 19e, dans les faubourgs. Mélange de guitare de gaucho avec les bandoneons allemands des immigrants et la chanson italienne. Ça veut dire de ces trois composants. Et aussi un composant afro. Il y a dans les primitifs tango.
Un peu comme dans le jazz, c'est une musique métisse au départ.
Absolument. Métisse, mélancolique, mais aussi satirique. La plupart des compositions de tango, le tango sort alors dans les coins des faubourgs, où sont des bars ou des maisons de femmes. Il se danse dans les coins, dans la rue. Et se danse avec un esprit pécamineux et satirique.
Fondeur aussi un peu.
Oui. Et les lettres font appel à... Si, il y a des situations, sont des blagues, sont des portraits de femmes, d'amour, des rapports d'amour... Mais un côté satirique très intéressant. Mais ce côté pécamineux du tango, parce qu'il faut comprendre que dans les années 70-80, commençaient à danser ensemble, corps à corps, et avec ce jeu de jambes, était un scandale. De l'autre côté, était la valse. Rien à voir. À tel point que dans l'année 1910, le pape interdit de danser le tango. Si. Il menace avec l'excommunion pour les gens qui dansent le tango. Parce que c'est un scandale, ça, c'est juste des jambes, des gens qui s'embrassent pour danser. Bon, mais comme toutes les choses, le tango commence à gagner les salons. Et déjà à la fin, déjà en 1918-1920, le tango, il est accepté dans les salons de la bourgeoisie.
Il s'exporte en Europe.
Il s'exporte en Europe. Voilà, dans les années 20 commence, le tango arrive à l'Europe. Et dans les années 30, il y a un grand chanteur, un personnage aussi, Carlos Gardel. Gardel qui... on peut dire que c'est l'inventeur del tango chanson, différent avec un style plus fin, plus mélancolique. Et c'est le tango chanson, le tango de salon. Et Carlos Gardel, en plus, avec une voix extraordinaire, il impose un style entre l'élégance, l'amitié, la solidarité, mélange d'hommes populaires, hommes de la rue, et dandy. Un étrange mélange. sud-américaines et viennent à Paris aussi, elles chantent à Paris, et elles jouent dans les films, plusieurs films, elles jouent à Joinville-les-Ponts, les studios de Joinville-les-Ponts, aussi dans les États-Unis. Et finalement, dans l'année 36, un accident d'aviation, quand lui retourne des États-Unis, en Colombie, il meurt, un incendie de l'avion. Bon, le tango, alors, c'est tout ça, mais c'est l'âme. Le tango, c'est l'âme de la ville de Buenos Aires. Alors, dans ma génération, j'ai dansé le tango. Quand j'avais 15 ans, on allait à des fêtes avec des adolescents, des filles, et on dansait foxtrot, boleros, aussi boogie-boogie, samba et tango. On devait danser le tango. Après, ce sont des choses que ça, on a perdu ces habitudes. Mais alors, pour moi, le tango toujours était... J'avais une énorme mélancolie pour le tango. Par exemple, dans le film « Les Soutes », j'ai mis plusieurs tangos de les années 40. Ce sont des tangos de ma jeunesse, de l'adolescence. Et « Soutes », c'est le nom de peut-être le plus connu, le plus classique tango de les années 40. « Soutes ». C'est le nom du film. Et on commence avec ce tango. Oui. L'histoire de Soud naît dans le film de ce tango. Oui. C'est comme dans le film de Woody Allen, quand lui met aussi Gershwin, on écoute Gershwin. Woody Allen met Gershwin parce que sont des foxtrots ou des musiques que lui a aimé beaucoup et qui appartiennent à sa vie. Tout ce tango dans le Soud appartient à ma vie. En plus, le tango. Alors, le tango, c'est la pulsion, c'est l'âme. Il n'y a rien dans le monde qui exprime d'une façon plus directe, plus noble que la musique populaire, qui exprime l'esprit d'un peuple, la sensibilité d'un peuple. Pensez-vous qu'en plus, le tango a donné inspiration à un grand musicien de tango qui a devenu, après, un énorme musicien tout court, que c'est Astor Piazzolla. Astor Piazzolla... Il ne joue pas exactement de tango. Plutôt, on peut dire qu'Astor Piazzolla a créé un formidable musica de camera de la ville de Buenos Aires, inspiré dans le rythme et dans la mélodie del tango. Il a développé beaucoup, cette musique.
Musique de chambre, vous voulez dire?
Et c'est une musique de chambre. Oui, 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 oui. C'est une musique formidable. Mais ce n'est pas le tango traditionnel, c'est pas facile, pratiquement impossible de danser la musique de Piazzolla. Si vous n'êtes pas en danser, c'est impossible. Non, et je sens, par exemple, les musiciens qui ont exprimé mieux notre esprit contemporain, c'est Piazzolla. Indudablement, Piazzolla, pour moi, le roi de tous les musiciens. À tout, nous, nous a touché Piazzolla d'une façon profonde.
Mais vous allez même écrire des tangos. Dans Sud, vous avez écrit les paroles d'un tango, et puis vous allez vous en servir dans le tango L'Exil de Gardel comme des songs un peu à la façon de Bertolt Brecht, c'est-à-dire que les tangos vont devenir une ponctuation de votre film, un contrepoint, et en même temps pour faire avancer ou progresser le rythme du film. Est-ce que c'est comme ça qu'on doit les entendre, ces tangos?
Si, si. Je pense que vous avez raison. Et je pense que la musique, c'est très important dans le cinéma. J'ai dit déjà que pour moi, le cinéma, c'est l'axe entre plusieurs langages. La littérature, parce qu'on raconte des histoires. Le théâtre, parce qu'on travaille avec des conventions dramatiques, avec des comédiens. Et la musique, parce qu'on les développe dans le temps. Et aussi, la musique, c'est le rythme, l'élan profond. Et en plus, c'est l'art plastique pour excellence, le cinéma, art plastique et mouvement. Mais c'est inséparable pour moi, le cinéma de la musique. Alors, et pourquoi la musique, le tango? Parce que c'est mon identité, le tango. C'est les choses plus profondes que je sens. Et parce que je cherchais toujours de trouver une fontaine d'inspiration pour mon cinéma dans la culture populaire. Et j'ai arrivé, aussi j'écris des tangos. Dans L'Exil de Gardel, il y a un tango que la musique et les paroles, deux qui sont musique et paroles, que je les fais dans l'exil de Gardel et aussi dans mon dernier film, Le Voyage. Enfin, dans tous les films, j'ai cherché d'écrire aussi une ou deux chansons, en plus les paroles. Je pense que c'est très important, ça. Je l'aime beaucoup. Une chanson, une mélodie populaire, c'est une chose qui nous accompagne toujours. Je me souviens que quand je rentre chez moi, quand je me promène, j'aime beaucoup me promener. J'aime beaucoup faire la découverte des villes, me promener dans les bois, la découverte des arbres. J'adore les arbres, c'est une passion pour moi. Et toujours, j'ai une chanson à la bouche. Je voyage avec des cassettes aussi. Entre mes cassettes, c'est Piazzolla et aussi Gardel. Aussi certaines cassettes de musique classique ou de musique contemporaine. J'adore Stravinsky, j'adore Alban Berg. J'adore beaucoup, beaucoup de musique. Aussi Bach, bien entendu, aussi Brahms. Mais je pense que c'est inséparable. Et, évidemment, dans le film Les Tangos, le sujet était pratiquement la musique. C'est un film sur l'exil, exil politique, mais c'est aussi un film sur l'exil de la création. La création, c'est toujours un fait d'exil. C'est aussi un film, l'exil de Gardel, Tangos, c'est un film entre le rapport entre les Argentins et les Français. Mais aussi, c'est une sorte de comédie, de tragédie, que j'appelais Tanguedie. Ce n'est pas la comédie à l'américaine, non plus la comédie à la française. J'ai construit mon film en rapport à notre théâtre populaire, à notre revista. Revista musicale, chez nous, c'est une espèce de théâtre de blagues politiques, picaresques, show. Il y a une tradition populaire de ce genre de choses. Bon, j'ai construit Tango l'exil de Gardel en rapport à la culture populaire de là-bas. Pour moi, c'est une tanguedie. Le tango, c'est une espèce de chanson théâtrale. Le tango toujours raconte des histoires. C'est la représentation, raconte ses scènes. C'est la représentation d'une histoire. Et dans le sud, j'arrivais à représenter certains tangos. Ces ponctuations dans le sud. Enfin, tout ça, il faut le voir dans une conception du cinéma. Pour moi, le cinéma, il est lié à la poésie. Le cinéma de fiction, il est lié à l'art de la représentation. Alors, c'est une convention, toujours. Je marre dans mon cinéma cet aspect de convention, cet aspect de mélange de théâtre, de littérature, de réalisme. Je pense que la notion de genre, c'est une notion qu'elle a changé beaucoup. Et je pense que chaque artiste dans le monde, toujours, l'unique chose qu'il ne peut pas laisser de faire, c'est chercher son identité de langage et de forme. L'artiste, en définitive, qu'est-ce qu'il ajoute? Ajoute un regard, surtout dans le cinéma. Ajoute un regard, mais ajoute forme, langage. Qu'est-ce qu'on peut ajouter à toute l'histoire de la littérature? Tous les sujets sont déjà développés pour l'histoire de la littérature. Il y a 40, 50, 60 sujets, pas plus. La mort, l'amour, la liberté, la justice. Combien sont les grandes métaphores, les grands sujets de Shakespeare, la Divine Comédie, Don Quichotte. Il y a 20, 30, 40 grands bouquins qui, je pense, qui expriment pratiquement tout. Chant de modalité régionale de l'époque contemporaine. Évidemment, c'est pour ça que quand je pense en le sud et en tangos l'exil de Gardel, qui sont des films qui ont fait le tour au monde, ils sont absolument argentins. Tellement argentins que mes amis antines me disaient, tu es fou, personne va voir tes films. À l'Argentine, parce qu'ils sont très difficiles, et à l'étranger, parce qu'ils sont très argentin. Et c'est faux parce que pourquoi on a tiré l'attention d'un certain nombre de spectateurs? Parce que d'abord, il y a des sujets, comme je disais avant, universels. Le Sud, c'est le retour à l'amour, c'est un film sur l'amour. Et le tango, c'est le sujet des exilés, le rêve de la patrie, et aussi c'est le rêve, c'est la création. Alors, ce sont des sujets universels, mais l'intéressant, c'est qu'on les voit avec une représentation différente, qu'il y a un côté différent. Ce côté différent, c'est l'identité nationale. C'est la façon où une culture nationale a donné caractère particulier, identité, enfin. C'est comme si on voulait les vendre les Américains en fort. C'est ridicule, les vendre les Français de parfum. C'est ridicule, ça. Chacun doit trouver son identité. Et je pense que l'artiste doit trouver sa propre identité dans l'invention des conventions artistiques, langage et forme. Bon, dans tous mes films, je les cherchais de construire avec une conception musicale, et je pense que ce sont des films plus proches à une conception d'oratorios ou symphoniques, symphonico-choral. J'adorais toujours les drames lyriques du 19e. J'avais étudié beaucoup Wagner, tout ça, j'avais étudié beaucoup. L'idée de l'intégration totale entre la poésie, le théâtre et la musique. Et je pense que le grand cinéma continue dans ces lignes.
Et pourquoi vous n'êtes pas tenté par faire un opéra, par exemple, étant donné que l'opéra étant la synthèse de tous les arts à partir de la musique, qui se rapproche du cinéma, en quelque sorte?
Oui, la vérité, que c'est un rêve qu'encore il ne m'est arrivé le moment, parce que personne ne m'a fait une offre pour faire la régie d'un opéra. J'ai étudié du théâtre, j'ai passé 4 ans dans le Conservatoire d'art dramatique à Buenos Aires, qui m'a aidé beaucoup dans ma formation. J'ai approfondi mes connaissances de l'histoire de l'art, du théâtre, de la musique, enfin, et j'ai joué comme comédien dans cette école, et après, quand j'ai sorti de l'école, j'ai monté certains spectacles, j'ai joué, etc. Mais j'aimerais beaucoup faire la régie du théâtre et la régie de l'opéra.
Vous venez de parler de formation. On va revenir à votre formation. Donc, la rencontre avec le cinéma. Vous avez donc étudié le théâtre, comme vous venez de nous le dire. Donc, vous allez maintenant travailler dans le cinéma, rencontrer le cinéma, même si vous l'aimiez auparavant.
Oui.
Comment ça s'est produit?
Ça s'est produit, bon, je prends conscience, je sens que je ne me trouve pas bien dans la musique. Peut-être que je n'avais pas une grande satisfaction, je n'avais pas les conditions pour un développement plus important. Alors, et à côté, de plus en plus, je sens que le cinéma, c'est le grand art qui résume toutes les expressions, tous les langages. C'était l'époque où je voyais, je faisais la découverte de grands films européens. Je vous parle des années 56, 57, 58. C'est le néo-réalisme italien qui arrivait à Buenos Aires. Les films d'Ingmar Bergman, certains films français. Enfin, tout ça, il a un énorme choc.
On peut savoir quels sont les films qui vous ont très impressionné à cette époque-là?
Vittorio De Sica, Ladri di bicicletta, Le voleur de vélo. Voleur de vélo, Umberto D. Miracle à Milan, Visconti, après Fellini, les premiers Fellini, Los Inútiles. Sì, tous les premiers Fellini. La Dolce Vita, pour moi, était un choc extraordinaire. Aussi le premier film de Bergman. Bergman, le premier prix qu'a reçu Bergman était au Festival de Mar del Plata. On faisait de la première semaine rétrospective de Bergman, c'est fait à l'Argentine. Buenos Aires est une ville très cinéphile. En plus, bon, Hiroshima, Mon Amour, Les 400 coups, et À bout de souffle, cette année 59 est extraordinaire.
Mais vous ne citez pas de films soviétiques. Pourtant, votre premier grand film, L'heure des brasiers, est quand même très proche du jeune cinéma soviétique des années 20.
Oui, non. Je connaissais déjà tous les classiques, non. Maintenant, je parlais des films que dans cette époque-là, les films nouveaux qui arrivaient à l'Argentine dans les années 50. Non, évidemment. Je connaissais 3, 4, 5 grands maîtres du cinéma de la première époque. Eisenstein, bien entendu, Pudovkin, mais aussi Pabst, Fritz Lang, Renoir, le cinéma français de les années 30, René Clair et Chaplin. Chaplin, Buster Keaton.
À voix nue. Fernando Solanas s'entretenait avec Robert Grelier. Réalisation Nicole Salerne.
Ce deuxième volet de la série d'À voix nue, Fernando Solanas, au micro de Robert Grelier, a été diffusé pour la première fois sur France Culture le 19 octobre 1993. Dès le lendemain, ce fut le troisième rendez-vous.
À voix nue.
Aujourd'hui, Fernando Solanas s'entretient avec Robert Grelier. Troisième entretien.
Comment vous débutez dans le cinéma ?
Je commence alors à passer au cinéma petit à petit. Je commence à m'approcher... à m'approcher, à de suivre certains tournages, travailler en tant que comédien, en certains longs métrages, au court métrage. Finalement, je trouve une aide pour les courts métrages de l'Institut de la cinématographie argentin. Et je réalise mon premier court métrage dans l'année 62. Je viens de sortir de l'École nationale de théâtre. Bon, c'est un premier court-métrage de 20 minutes, une fiction, pas bien du tout, un petit peu long. Mais il avait des valeurs quand même, parce qu'il était invité à plusieurs festivals internationaux de l'époque. Mais pour moi, c'était extraordinaire, parce que j'avais passé 10 ans de ma vie dans une recherche d'identité. Et j'avais traversé plusieurs crises pendant ces 10 années que j'avais passées entre mes 16 et mes 26 ans.
De quelle ordre ces crises ?
D'identité. J'avais commencé avec la musique. Après, je l'avais quitté et j'avais commencé le théâtre. Pourquoi j'avais commencé le théâtre ? Parce qu'il n'avait pas école de cinéma. Il n'existait pas. Il existait une école de cinéma que dirigeait Fernando Birre, un grand réalisateur argentin, mais à Santa Fe, presque 600 kilomètres au nord de la ville de Buenos Aires. Dans cette époque-là, à Buenos Aires, il n'avait pas d'école de cinéma. C'est pour ça que j'avais commencé mes études de théâtre, persuadé qu'il était indispensable aussi étudier théâtre, mais surtout direction de comédien, formation de comédien, et qu'il était intéressant aussi faire une expérience en tant que comédien. Enfin, j'avais cette idée du réalisateur qui doit connaître tous les moyens d'expression, doit connaître toute la technique comme le fait le maître d'orchestre. J'avais étudié aussi la technique du maître d'orchestre. J'avais suivi beaucoup de répétitions de grands maîtres au Théâtre Colón avec la Symphonique Nationale. Et j'étais persuadé que le réalisateur devait avoir la connaissance de tous ces langages, aussi des langages de l'acteur, pour pouvoir les diriger. Alors j'ai passé mes 4 ans dans l'école de théâtre, et c'est dans la sortie que je commence à préparer mon premier court-métrage. Ce premier court-métrage qui s'appelle « Seguir andando », ça veut dire « continuer à se promener ». Bon, elle était pour moi un bref bien angoissante, parce que j'avais passé 10 ans en aller-retour, toujours pour m'approcher au cinéma. Et voilà les moments de la vérité. Si bien mon court-métrage, il n'était pas un film bien réussi, mais il avait un niveau de langage et il exprimait une sensibilité sur l'image qui, bon, pour moi, était formidable parce que j'étais persuadé que j'avais trouvé mon moyen d'expression.
Ensuite, vous allez travailler dans la publicité, je crois.
Oui, il faut penser que comment j'ai fait tout ça. J'ai fait tout ça avec une formidable stratégie de la misère. j'ai fait des calculs extraordinaires pour survivre. Dans l'école du théâtre, j'avais passé 4 ans. On rentrait à 4 heures de l'après-midi jusqu'à 10 heures du soir. Impossible de travailler. Alors je m'avais gagné la vie comme scénariste de bande dessinée. J'ai fait beaucoup de bande dessinée. Mais en plus des autres choses, parce que pas beaucoup d'argent comme scénariste de bande dessinée. Mais j'étais aussi marié. J'avais 19 ans quand je me mariais. Bon, on avait une énorme capacité pour vivre pratiquement avec rien. Ça, c'est la vérité. La vérité est toujours dans les concerts debout, en attendant quelqu'un qui nous laissait rentrer. Un moment très difficile. Acheter un livre est une fête. Toujours la conscience que pour faire des choses, il faut avoir du temps pour les faire. Que la création, c'est surtout temps de travail. Temps pourquoi? Pour travailler. L'inspiration arrive après beaucoup de travail. Et on peut trouver des choses extraordinaires à condition qu'on travaille. Si on ne veut pas la forêt et on ne regarde pas le sol, on ne trouvera jamais un fraise ni un bel champignon. C'est ça la vérité. Alors il faut avoir du temps pour travailler. Alors j'ai défendu toujours mon temps personnel, mais à cause de certains sacrifices. On a vécu très mal. Et en plus, la première crise de mon premier mariage aussi, ce mariage a vu aussi ces problèmes qu'on a vécu en conditions. Crise d'immaturité et de jeunesse, mais aussi on vivait dans une condition très mauvaise. Voilà, alors, mon premier film m'aide à trouver. Je commence à recevoir une certaine reconnaissance et je commence à être vu comme un réalisateur. Ça, c'est une aide extraordinaire. Parce que beaucoup de mes amis se demandaient, mais qu'est-ce que tu vas faire finalement? Tu étais dans le théâtre, dans la musique, tu étudies aussi de la peinture, mais qu'est-ce que tu veux faire maintenant avec le cinéma? C'est encore autre prétexte.
Pour ne pas travailler?
Exactement. Bon, finalement, c'est avait été mon examen. J'étais dit, pour une espèce d'examen de fin de carrière, j'étais dans le cinéma. Mais j'avais la conscience qu'il est impossible de développer une capacité de réalisation sans une pratique avec une certaine continuité, pas un court-métrage chaque 2 ans. Bon, j'ai travaillé déjà dans la publicité. Avant de faire le court-métrage, j'avais commencé à faire des chansons et musique pour la publicité. Et j'avais de l'argent. Avec cet argent, j'ai payé en partie de court-métrage. Et avec ce rapport avec la publicité, j'ai commencé après à faire des films de publicité, avec un énorme succès. La publicité, c'est un langage lui-même. Et c'est un travail qui exige, on peut dire, une certaine propriété ou perfection technique. Et chaque image doit être d'une expression absolument claire. C'est très difficile faire goûter une boisson, un verre, un objet qui n'est pas aucune chose extraordinaire. Bon, on travaille l'image de telle façon qu'on peut exprimer beaucoup de choses. C'est un énorme, énorme exercice, extraordinaire exercice. Bien entendu que si on n'a pas aussi la lucidité pour les critiquer, pour savoir que c'est un langage lui-même, peut-être ce langage exprimera, va imprimer après tout votre travail. j'avais cette conscience et j'ai travaillé avec un certain dissociation. Mais le pire pour moi, j'avais gagné un énorme succès avec mes premiers films de publicité. Tel succès que quelques mois après avoir commencé, j'étais obligé à ménager, changer de bureau. Et dans le premier an, j'ai changé deux fois de bureau.
Pour s'agrandir ?
Pour s'agrandir. Et j'avais 10, 12, 13, 15 films à faire chaque mois. J'avais tombé dans la folie absolue. Alors j'ai mis une date. J'ai dit, à telle date, la location était septembre del 64, je dois faire mon premier voyage. J'avais décidé de faire de longtemps mon premier voyage à Europe. J'avais des grands amis, un sculpteur, céramiste, sculpteur argentin qui avait parti à l'Italie. Grand ami. Et autre grand ami de cœur qui habitait à Espagne. Alors j'avais décidé de faire ce voyage pour ma formation culturelle, beaucoup de choses. J'avais besoin de faire ce voyage d'exploration pour le vieux continent. Et alors je me dis, avant septembre, je le dois faire. Finalement, je l'ai fait. J'ai coupé tout.
Et ce fut un choc pour vous ?
Non, d'abord le choc de tout mon entourage, que j'ai crassé ma maison de production. Je l'ai détruit. J'avais construit une formidable fortalesse. Beaucoup de gens avaient de l'envidia de ces positions. Bon, je l'ai détruit. J'ai eu la conscience que d'abord j'ai eu la force pour construire et que si je n'avais pas la force pour le détruire, je n'aurais pas une garantie de liberté dans la vie. C'est très important pour moi. Alors, j'ai détruit la fortaleza que j'avais construite et j'ai gagné ma liberté et j'ai parti pour un voyage de 8 mois. J'étais en Italie, Espagne beaucoup, la France, Angleterre, après les États-Unis. Très important ce voyage, très important. Oui, parce que m'a permis commencer à mettre les choses dans sa vraie place. Quand on ne sort pas de chez lui, c'est l'imaginaire. Toutes les choses qui sont dehors de votre réalité, c'est l'imagination. Alors le voyage, voyager donne ces formidables possibilités de confronter. Savoir si le bleu se bleu, au bleu marine, au bleu clair. Voilà. C'est très important, c'était un voyage formidable. J'ai démythifié beaucoup de choses, d'idées que j'avais. J'ai fait des découvertes d'autres choses formidables. Enfin, il était une énorme stimulation. Et aussi une énorme conscience de mes possibilités. Et des possibilités qu'il avait à l'Argentine. Alors j'ai retourné déjà avec l'idée de commencer de zéro, encore une fois. Mais pour faire un grand film. Et ce grand film devait être la découverte, la reconnaissance, la découverte de l'Argentine. Et voilà, c'est le germen, la première impulsion. J'ai retourné en fin del 64, début 65. C'est l'impulsion, la naissance de mon premier grand projet, L'Air de Brasier.
Et effectivement, ça va être un très grand film, puisqu'il va durer 4 heures, et que ça va être un choc pour tout le monde.
Oui, dans ce moment-là, je ne savais rien de ça. Mais la première bataille, dans ce moment-là, a été reconstruire ma petite fortaleza pour le faire à la mesure, ma maison de production, pour le faire à la mesure de mes nécessités vraies. Mettre-la à disposition d'être la plateforme pour faire ma maison de production de mon projet, pas à l'envers. Alors, j'ai pris très peu de publicité, exactement le nécessaire pour pouvoir, les week-ends, travailler dans mon film, dans L'Air de Brasier. Mais, en même temps, les choses plus difficiles dans la vie, toujours, sont prendre la décision. Avant, c'est un processus de recherche, d'angoisse, de débat antérieur, jusqu'au moment de prendre la décision. Une fois qu'on a pris la décision, toutes les choses s'organisent. Réaliser, c'est organiser l'énergie pour arriver à un objectif précis. Mais quel objectif? Je ne savais pas que le film...
Bon, non. Vous êtes parti comme ça
Non, la vérité, je voulais faire un film sur l'Argentine, des découvertes. Voilà, je m'avais formé pour faire le cinéma de fiction. Mais pour comprendre ça, il faut comprendre la crise qu'on vivait dans ce moment-là. Il était une crise aussi dans le sens de la pensée et de l'histoire. Une crise dans l'histoire argentine. C'est l'année 65, l'année 66 devient déjà un nouveau coup d'État. Et en plus, c'est une crise internationale très forte. Et il faut dire alors que toujours dans ma vie, de l'adolescence en plus, ça avait développé en moi une énorme passion, voilà les mots, passion pour le pays et passion pour le sujet social. Et voilà, synonyme de passion pour la politique. Mais politique dans le sens de que m'intéressait beaucoup la réalité du pays, l'histoire et les problèmes socio-culturels contemporains. Et on vivait à l'Argentine une sorte d'immobilisme, de cosification de l'histoire insupportable. On avait besoin de chercher qui nous sommes, où nous irons, de quelle façon, comment. Et alors, avec ces interrogations, a vu la naissance de ce grand film, qui n'était autre chose que sortir à la recherche, au contact avec la réalité. La réalité, ça veut dire tous les pays, pas la ville de Buenos Aires. Alors, j'ai commencé à, sans savoir exactement quelle sera la forme définitive de ce projet. Évidemment, je voulais les témoigner, je voulais parler avec des gens, des dirigeants, des ouvriers, des étudiants, d'intellectuels, d'historiciens. Et alors, je savais que le film devait passer sous la forme du cinéma direct, du cinéma documentaire. Je ne voulais pas inventer une fiction pour expliquer une histoire. Ça aurait fait une sorte d'aliénation. Alors, j'ai quitte ma formation pour la fiction artistique et je me mets plutôt en sociologue, en historicien, en anthropologue pour aller à la recherche d'une réalité. Je commence à voyager par tous les pays. J'ai fait finalement, depuis 300 de réalisation de ce film, on avait fini avec 18 000 kilomètres et des dizaines d'heures d'enregistrement, d'interviews.
Et pourquoi vous êtes associé avec Gétineau pour faire ce film? Vous ne vous sentiez pas assez fort sociologiquement, historiquement, pour pouvoir
la
le faire
vérité,
tout seul?
Non. Et je ne voulais pas le faire seul. J'ai commencé mon premier film. Et avec cet énorme sujet, j'ai senti la nécessité d'avoir à côté de moi quelqu'un pour pouvoir travailler les scénarios ensemble, faire la recherche et les scénarios ensemble. Et on s'est rencontré avec Octavio Gétineau, qui avait un petit peu la même nécessité. Il venait de finir un bouquin de romans, de contes qu'il avait été primé à Cuba dans la Maison des Amériques et qu'il étudiait de cinéma et qu'il était d'accord en commencer cette énorme recherche. Et était un moment formidable, un rapport que nous a enrichi beaucoup, à nous deux. Et les choses plus difficiles pour moi n'étaient pas seulement donner des réponses à une réalité historique, politique, d'énorme confusion, sinon couper avec les modèles traditionnels de cinéma. Dans les modèles traditionnels de cinéma, ces films-là, tous les sujets, ils ne rentraient pas. Alors, pourquoi? Pour qui on fait ces films-là? C'est un fait de folie, c'est un délire, parce qu'il y a une pleine dictature militaire, une censure féroce. Où tu vas passer ces films? Alors, il était un contrasens extraordinaire. Oh, une fête d'omnipotence énorme.
Alors, est-ce qu'on peut dire que son existence a d'abord été en Europe avant d'être en Argentine?
À qui on s'adresse? Comment faire un cinéma si on n'aura pas la chance de le montrer? Bien entendu que dans les circuits commerciaux traditionnels, il ne passera pas parce qu'il existe une dictature militaire avec une censure féroce. Plutôt, on peut aller en prison. Mais on avait déjà l'expérience d'aller avec le cinéma à l'avant-lieu, avec des étudiants dans les syndicats, etc. On projetait des courts-métrages, aussi des longs-métrages. Des longs-métrages pleins de contenu social. Il était une expérience formidable. Alors, on va travailler exactement pour ce circuit. Oui, mais comment le produire? Ben, comment le produire? C'était facile. Pour moi, c'était facile. Pourquoi? Parce que j'étais un des principaux réalisateurs de cinéma de publicité. Je me gagnais bien. Et on a fait L'Heure de Brassier. Comprenez-vous que les trois quarts de L'Heure de Brassier, il était tourné avec une caméra Bolex à cordes. Bolex à cordes. Il n'avait pas aucune prise d'une longueur plus de 26 secondes, parce que la corde durait 26 secondes. Dans les deuxièmes années de tournage, on achetait un bolier. Alors, avec la batterie, avec la bolier et la batterie, on pouvait tourner les 3 minutes et quelques secondes plus de la petite bobine. Et après, à la fin, on ajoutait certaines séquences en 35 mm. Mais voilà l'économie de L'Heure de Brassier. Et à la fin, on a gonflé. Et à la fin, j'ai fini ce film-là avec l'appui des amis italiens, la maison de production des frères Taviani, Giuliani Danegri, Valentino Orsini à Rome, qui, pour grande sympathie, ont trouvé ce film extraordinaire. On aimait beaucoup ce film. Et m'ont donné un crédit pour faire la finition à Rome. L'Agerfilm, dans ce moment-là, je vous parle de l'année 68. La maison Agerfilm, il avait des cabines de montage et deux salles de mixage. Pasolini aussi finissait ses films à l'Agerfilm. Ferreri, Pasolini. Bon, j'ai vu ces chances extraordinaires qui m'ont donné la possibilité de finir le mixage. Et tirer une copie en Italie en ces conditions-là. J'ai sorti de l'Argentine, j'ai travaillé 3 ans de façon clandestine. Ça veut dire, pourquoi de façon clandestine? Parce qu'il était absolument interdit, enfin, que je l'ai dédié au Che Guevara. Et était un énorme hommage à toute la résistance et toutes les luttes ouvrières de les dernières 15 ans. Et j'ai raconté avec autre regard toute l'histoire contemporaine de l'Argentine. Bon. Dans le moment où j'avais commencé à faire cet investissement, je l'avais fait avec une idée très modeste. Je vais faire le cinéma avec la même liberté qu'un écrivain a en face pour écrire un livre, un peintre. Sinon, il ne m'intéresse pas. Bon, personne ne va me produire, je me produirai. Alors, j'ai travaillé comme un fou et la maison de production servait pour produire L'Heure de Brassier avec une économie absolument modeste. C'est pour ça que j'ai pris 3 heures et demie pour finir ce film. C'est un film que on le produisait, on le réalisait sur la marche, et le film posait de nouvelles questions et des exigences, et le film a servi pour notre propre transformation. Et le film était un engagement encore pour la deuxième fois. Je sentais que, comme la première fois, j'avais détruit ma propre fortaleza, je mettais aussi en cause ma propre stabilité avec le film. Et j'avais toute la conscience qu'après le film, j'étais obligé à passer à autre chose. Le film, je suis un petit peu fatigué, mais peut-être je ne trouve pas les mots, la transformation que le film faisait, moi. Transformation parce que l'agrandissement, la connaissance, mais aussi à ce point d'engagement, j'avais coupé les amarras, on dit qu'on coupe. J'étais déjà dans l'océan avec ce fil. Et je ne savais pas exactement quelle était la direction, à quel code je pouvais arriver avec ce fil.
ce film avait une ambiguïté. On ne savait plus très bien si le marxisme était aussi une dérive du péronisme, ou vice-versa.
Ouais. Le péronisme, c'est un phénomène argentin. Mais pas exactement argentin, je dirais que peut-être que aussi dans d'autres pays de l'Amérique du Sud et du tiers-monde, on sortait dans l'après-guerre, ou dans ce siècle, des mouvements de contestation nationale, de forts contenus sociaux, en rapport à la défense de la nation et à la défense des droits populaires et de la justice sociale et de la démocratie. Après, évidemment, le péronisme sort dans l'après-guerre et quand le péronisme commence à contester ces notions cosifiées de l'histoire entre l'Est et l'Ouest et dénonce d'un côté le colonialisme et l'impérialisme du capitalisme occidental. Et de l'autre côté dénonce l'expansionnisme de Staline soviétique. Bon, tout d'un coup, il est en face de tous les pouvoirs mondiaux. Mais les thèses de Perón sont reprises quelques années plus tard pour Nasser, aussi pour Nehru. Il se parle de troisième position et des pays non alignés. Grande solitude dans l'année 45. Une énorme solitude dans le pays, dans ces moments de contestation de type populaire, social et national. Alors, on a vu en face les grands services de l'information mondiale qui n'étaient pas argentins. Les Américains ont désinformé et aussi les chaînes européennes ont désinformé. On traitait à Perón comme un simple fasciste. Il avait aussi certaines raisons pour le tilder, parce que lui était un militaire, et les militaires toujours ont été vus comme de simples fascistes, mais les militaires à l'Argentine avaient contribué aussi à la naissance de l'industrie nationale, à la défense en général, le général Mosconi, en général pendant le gouvernement radical des années 20, qui avait constitué, organisé la première entreprise de pétrole du pays. Et aussi autre général, le général Savio, qui avait construit la première sidérurgie nationale. Alors, tous ces projets de l'industrialisation, de l'événement du marché intérieur, aussi, il était lié à l'idée de l'indépendance nationale et l'autonomie du pays pour des rapports dans tous les pays du monde.
À voix nue. Fernando Solanas s'entretenait avec Robert Grelier. Réalisation Nicole Salerne.
Les trois premiers volets ont été diffusés pour la première fois sur France Culture les 18, 19 et 20 octobre 1993. À suivre.